Aujourd'hui, je reçois Caroline qui a créé le site Edumiam avec une autre maman. Edumiam, c'est un site internet sur l'alimentation du tout petit. Il a pour but de rendre plus accessibles les recommandations scientifiques sur cette thématique pour nous aider à donner des bonnes habitudes alimentaires à nos enfants dès le plus jeune âge. Dans cette interview, Caroline donne des exemples de choses peu connues et pourtant qui seraient intéressantes de savoir sur la diversification alimentaire ou par exemple sur les comportements recommandés quand on donne à manger à son enfant pour mettre toutes les chances de notre côté afin que tout se passe pour le mieux. Alors pour en savoir plus, je vous invite à écouter cet épisode.
Avoir un enfant, c'est beaucoup de bonheur. Mais c'est aussi beaucoup de questions auxquelles on ne trouve pas toujours les réponses.
Je m'appelle Aurore. Je suis psychomotricienne et orthophoniste depuis 15 ans et j'ai créé donnezluidesailes.fr pour vous aider à révéler la maman confiante et épanouie en vous et donner des ailes à votre enfant. Bonjour Caroline et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pourriez d'abord présenter un petit peu Edumiam en quelques mots? On viendra ensuite dans le détail de tout ce que vous proposez, mais déjà d'avoir une première idée de ce que c'est.
Bien sûr, bonjour Aurore, merci pour l'invitation. Alors Edumiam, en quelques mots, c'est un expert à portée de main pour aider les jeunes enfants à bien grandir. Donc c'est une entreprise sociale qui accompagne tous ceux qui s'occupent des jeunes enfants, et donc forcément les parents, en premier lieu, dans leurs questions du quotidien, en commençant par le sujet clé de l'alimentation infantile. Parce que c'est vrai que l'alimentation, c'est un sujet sur lequel les parents se posent beaucoup de questions, notamment en matière de, au moment de la diversification alimentaire. Quel aliment donner, à quel âge, en quelle quantité, que faire si mon bébé ne veut pas manger de légumes, etc. etc. Et donc, voilà, on a commencé là-dessus, mais on se développe progressivement sur d'autres thèmes.
D'accord. C'est vrai qu'on entend un peu tout et son contraire sur Internet, notamment concernant l'alimentation. Alors, comment est-ce qu'on peut être sûr que ce que vous proposez sur Edumiam, c'est vraiment quelque chose de qualité? Surtout que bon, les recommandations changent quand même assez régulièrement.
Ben ça, c'est un point clé. Merci vraiment pour cette question parce que c'est ce qui nous a poussé à créer Edumiam. C'est cette idée de ne pas forcément trouver de l'information de qualité facilement. C'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que c'est 80% des parents qui trouvent la réponse à leurs questions via du mom sourcing sur les réseaux sociaux avec, voilà, comme vous le disiez, tout et son contraire. En fait, on retrouve un peu la réponse. La réponse qu'on cherchait à la question qu'on pose sans nécessairement que ce soit garantie qualité. Donc nous, ce qu'on a vraiment voulu, c'est simplifier l'accès à de l'information fiable. Parce qu'aujourd'hui, souvent, par exemple, sur les sites gouvernementaux, mangerbouger.fr, par exemple, il y a des choses de très grande qualité, mais pas forcément très digestes, sans mauvais jeu de mots, qui font que personne va les lire. Enfin, peu de gens vont les lire. Même dans le carnet de santé, il y a pas mal de trucs, mais beaucoup de gens ne le savent pas, ne regardent pas. Et donc, nous, tous les contenus que l'on développe ou que l'on prodigue avec nos conseils via Edumiam, c'est aligné avec les recommandations officielles du Programme National Nutrition Santé. Donc, maintenant, c'est le PNNS 4 qui est sorti en juin dernier. Et revalidé, enrichi par un comité d'experts. Parce que, comme vous le disiez, c'est vrai que parfois, il y a des nouvelles études scientifiques, par exemple en matière d'allergie, qui peuvent sortir. Et c'est le comité d'experts qui nous fera part des dernières recommandations qui auront été validées par l'ANSES, enfin, voilà, les structures et instances officielles françaises.
D'accord. L'ANSES, c'est l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. C'est vraiment l'établissement public français de référence en ce qui concerne la santé humaine, la santé, même le bien-être animal et la santé végétale. Et donc, ils ont toute une mission de veille, d'expertise et de recherche sur ces thématiques.
D'accord. Du coup, ce que vous disiez, j'imagine que vous avez créé Edumiam parce que ça répondait à un besoin pour vous au départ. Est-ce que vous pourriez expliquer peut-être un petit peu ça et puis présenter un peu votre équipe?
Oui, effectivement, comme c'est souvent le cas quand on monte un projet, c'est en partant de son propre besoin. Et donc, moi, j'ai cofondé Illumiam avec une amie d'enfance, Éléonore, au moment où on a eu nos premières filles, il y a 3 ans, enfin, après leur naissance, bien sûr, où voilà, on s'est rendu compte qu'on se posait beaucoup de questions, comme je vous le disais précédemment, sur le sujet de l'alimentation infantile. Principalement au moment de la diversification alimentaire, et que voilà, on s'est rendu compte que c'est les mêmes questions que se posent tous les parents en réalité, et que c'est pas si simple d'avoir la réponse à ces questions. Voilà, donc au niveau des repères nutritionnels, voilà, surtout que ça change énormément au cours des 12 premiers mois de la vie d'un enfant. Et voilà, on s'est dit qu'il y avait clairement quelque chose à faire pour accompagner les parents et simplifier ce processus essentiel, d'autant plus que c'est un sujet clé pour le développement des enfants.
Et du coup, vous parliez d'un comité d'experts. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus aussi sur ce comité d'experts?
Bien sûr, donc dans le comité d'experts, on a différents professionnels issus donc de formations assez différentes. On a par exemple une diététicienne nutritionniste, la diététicienne nutritionniste spécialisée gastro de l'hôpital pour enfants Robert Debré. On a 2 pédiatres. On a une psychologue pour enfants, notamment, c'est assez important pour tout ce qui est tous les comportements alimentaires. Voilà comment réagir face à différents comportements alimentaires, parce que l'alimentation, c'est pas juste les quantités et les aliments, mais ça va bien au-delà. On a qui d'autre? J'en oublie d'autres parce qu'on voilà. Enfin, donc on a tout un panel de professionnels qui grossit un peu au fur et à mesure et qui vient voilà revalider, valider tout ce qu'on sort, revalider, proposer des nouveaux contenus, etc., au fur et à mesure.
D'accord. Vous disiez que l'alimentation, c'est un sujet clé pour le développement des enfants. En quoi c'est important de bien nourrir son enfant?
Oui, bah effectivement, c'est bon. On sait que l'alimentation souvent est importante. Il y a un lien très fort entre l'alimentation et la santé. Et d'après l'UNICEF, la qualité de l'alimentation donnée au cours de la petite enfance est clé pour le développement physique et cérébral d'un enfant avec des impacts tout au long de sa vie d'adulte. Et ça, c'est vrai. Enfin, c'est-à-dire que c'est clé pour le développement du cerveau, en fonction de certains aliments qu'on peut donner. C'est clé pour la prévention de certaines maladies nutritionnelles qui peuvent apparaître plus tard, excusez-moi. Et puis de prendre des bonnes alimentations alimentaires pour, voilà, comme je disais, prévenir ces maladies nutritionnelles. On parle de diabète, mais aussi de surpoids, obésité. Il faut savoir qu'un enfant qui est en situation de surpoids ou d'obésité a 80% de chances de l'être à l'âge adulte. Et ce n'est pas forcément de son choix lorsqu'il est enfant.
L'idée, c'est de prendre des bonnes habitudes alimentaires dès le début.
Exactement.
D'accord. Du coup, est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus en détail sur tout ce que vous proposez sur Edumiam?
Alors, on propose différents accompagnements. On a notamment développé un mini coaching sur application mobile. Notre objectif, donc, comme je le disais, c'est de simplifier l'accès à de l'information fiable sans avoir nécessairement à lire ou se palucher les informations de grande qualité des sites gouvernementaux ou autres, mais qui sont pas forcément faciles à lire, ou on n'a juste pas forcément le temps. Et en évitant donc de se renseigner uniquement sur les réseaux sociaux. Voilà, ça permet de donner les conseils d'experts, mais de manière très ludique. Voilà, c'est une des offres qu'on a mis en place, donc cette formation sur application mobile.
Donc ça, c'est accessible gratuitement pour les parents, non, c'est ça?
Oui, alors c'est accessible gratuitement.
Grâce à un partenariat avec Teach on Mars.
D'ailleurs, aujourd'hui, tout ce qu'on propose pour les parents est gratuit, hormis un guide et un calendrier papier spécial diversification alimentaire qu'on envoie par la poste. Mais l'idée, c'est que, parce que sur le côté, on a une autre activité qui est la vente de formation professionnelle aux professionnels de la petite enfance, mais on a à cœur de mettre à disposition d'un maximum de parents nos conseils d'experts ludiques sur l'alimentation infantile pour les aider sur ce sujet clé. Donc ce coaching est gratuit. En fait, on l'a mis à disposition pendant la crise du coronavirus où, à cause du confinement, ben voilà, les parents et surtout les jeunes parents, les primo-parents, étaient assez perdus, ne pouvaient pas forcément aller à la PMI, aller voir le pédiatre et avoir les conseils mois après mois. Mais on a décidé que voilà, on le laisserait disponible gratuitement après.
D'accord, donc du coup concrètement, c'est une application mobile qu'on peut aussi d'ailleurs lire directement sur son ordinateur si on veut aussi, accessible aussi sur ordinateur. Et donc on a des petits cours en format vraiment très court, et puis ensuite des jeux pour voir si on a bien assimilé ce qui nous a été donné.
C'est ça. Oui, c'est ça. Les formations, l'idée, c'est de notre objectif avec ça, c'est de pouvoir apprendre en s'amusant. Donc, ça alterne vraiment. Il y a cette combinaison, comme vous avez très bien mentionné, entre un petit peu de l'information, du contenu, comme des petits cours, mais toujours assez court pour que ça soit pas du tout dans l'idée de lire trop longtemps, et qui alterne avec des jeux assez rigolos. Donc, voilà, les retours aujourd'hui, sont très bons parce qu'ils disent là, on est content de pouvoir regarder 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, de pouvoir y retourner en fonction aussi d'accéder directement aux informations qui nous intéressent sur les tranches d'âge, les questions qu'on se pose, les conseils pratiques, mais toujours dans cette idée de ce qu'on a vraiment travaillé sur l'application, c'est que cette combinaison de théorie et de jeu permet bien d'ancrer l'apprentissage. Parce que ce qu'on entend beaucoup souvent, c'est que voilà, on lit plein de trucs, on a énormément de documents, par exemple, quand on sort de la maternité, mais après on oublie un peu. Et l'idée, ça, c'est de faciliter l'ancrage de ce qu'on lit.
D'accord. Donc du coup, j'ai relevé un petit peu les modules qui sont accessibles actuellement. On a le premier module, c'est alimentation et santé. Ensuite, un deuxième module, éduquer nos enfants au goût. Ensuite, un troisième, bien nourrir son bébé. Un quatrième, réussir la diversification. Un cinquième, recommandation au moment des repas. Et un sixième, des recettes. Donc c'est des choses qui sont vraiment très pratiques et chaque module dure à peu près une demi-heure, c'est ça?
Oui, chaque module dure à peu près une demi-heure. Il y en a des plus ou moins longs. Celui qui sera vraiment sur tous les repères nutritionnels sera peut-être un petit peu plus long sur comment réussir la diversification alimentaire. Mais après, on peut aller directement à la tranche d'âge qui nous intéresse. Mais sinon, l'idée, oui, c'est des modules qui sont 20-30 minutes.
D'accord, super.
Très orientés, pratico-pratiques, voilà, conseils pratiques.
D'accord. Du coup, qu'est-ce que vous proposez d'autre sur Edumiem? J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une newsletter.
Oui, alors on a une newsletter où on envoie des conseils qui peuvent être personnalisés avec l'âge de l'enfant. Après,
D'accord.
on a des guides pratiques, soit à télécharger gratuitement sur le site, en version PDF, soit qu'on peut envoyer en version papier. Enfin, c'est surtout, souvent, c'est des choses qui sont assez demandées au cours de salons parents, petite enfance. Des guides pratiques voilà, sur les repères qui ont été un petit peu travaillés avec un. Bon, voilà, qu'on a fait avec de nombreux parents pour ne pas faire un guide très long, mais justement que les fiches récap essentielles qu'on puisse mettre sur le frigidaire ou à partager avec la nounou, la baby-sitter, les grands-parents, pour que tout le monde soit aligné sur les mêmes repères.
D'accord, ok, super. Est-ce que les conseils que vous donnez sont aussi adaptés pour les mamans, par exemple, qui n'ont pas le temps de faire à manger ou celles qui vont avoir une alimentation un peu spéciale, vegan, bio, ou qui vont pratiquer la diversification menée par l'enfant?
Bah alors, Dans les conseils des Dumiam, il y a tout ce qui est à ce qui est la base, à savoir à savoir sur les repères nutritionnels, ainsi que comment réagir en cas de comportement difficile ou comment éduquer au goût. Et donc ça s'applique à tout le monde. Qu'on donne des petits pots si on n'a pas le temps de préparer, qu'on veuille que tout soit bio, qu'on soit végétarien ou qu'on pratique l'ADME. Voilà, c'est les recommandations officielles, les trucs et astuces, les bonnes pratiques. Sur ça, quel que soit ce qui est dans l'assiette, ça s'applique. Après, peut-être à l'exception près des régimes végétaliens, des régimes véganes, qui, bon, d'après les recommandations officielles et nos experts, sont clairement pas recommandés au cours de la petite enfance. Donc ça, je pense que les parents qui pratiquent, les rares parents qui pratiquent ce type de régime au cours de pour leur bébé, se renseigneront plutôt ailleurs. Mais pour les autres, non, pas de souci. L'idée, justement, c'est aussi pas du tout. On a chez Dumiam, on a vraiment à cœur de pas donner de leçons. Chacun fait comme il veut en termes de voilà de on va dire qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui peut être négatif pour la diversification menée par l'enfant ou en cas de régime végétarien qu'est-ce qu'il faut à quoi il faut faire attention et quels compléments il faut bien apporter ou des choses comme ça. Mais de toute façon, chaque parent fait comme il veut. Enfin, c'est pas, on n'essaye pas de n'avoir qu'une seule façon de faire.
D'accord. Si on décide d'acheter des aliments tout préparés, en tout cas le fait de choisir des produits spécialement conçus pour les moins de 3 ans, normalement, il n'y a pas de souci au niveau de tout ce qui est pesticides, colorants, conservateurs, etc. Parce que si je ne me trompe pas, la réglementation française est quand même assez stricte à ce niveau-là.
Ouais, c'est tout à fait vrai, la réglementation européenne est extrêmement stricte dans l'alimentation du tout petit, donc le 0-3 ans. D'ailleurs, il y a un petit signe hein, pour l'alimentation 0-3 ans sur les produits alimentaires industriels, hein, que ce soit les petits pots, les gâteaux, etc. Et en réalité, ça, certains vous diront que même les produits pas bio respectent, enfin qui ne sont pas labellisés bio chez la petite enfance, respectent comment diront, des règles presque aussi strictes que le bio pour adultes, parce que le taux de pesticides, de nitrites, etc. pour la petite enfante est extrêmement réglementé. Donc ça, en soi, il y a vraiment aucun souci à se faire. Après, nous, chez Edumiam, on recommande même de donner de temps en temps des petits pots. Idéalement, si on peut cuisiner, c'est super, mais une fois de temps en temps, il y a aussi l'avantage, ça c'est un petit peu un truc et astuce, que si jamais on est coincé dans le train ou lors d'un trajet ou quelque chose, que quand on doit en acheter en urgence, il ne nous le refuse pas parce qu'il n'a jamais été habitué à cette texture qui est quand même un petit peu différente. On voit aussi des cas complètement contraires ou extrêmes qui diront, voilà, moi je n'achète que des petits pots parce que je suis sûre que c'est bien, parce que la réglementation est si stricte, c'est presque mieux fait que ce que je ferais à la maison. Bon, mais ça, non, il y a aussi toute la. C'est quand même pas forcément le même goût des produits dans les petits pots. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de. Si on doit faire du petit pot, ne pas faire que ça. Et si on fait que du fait maison, une fois de temps en temps, de proposer un petit pot pour qu'ils puissent connaître cette texture, ça n'est pas grave.
Super. Oui, après, c'est vrai aussi que dans les petits pots, en général, c'est difficile d'avoir un seul aliment. Et même
Ouais.
souvent, l'aliment principal, c'est rare qu'il soit à plus de 50% parce qu'on rajoute notamment de la pomme de terre qui est pas chère. Voilà,
Ah
qui.
ouais.
Donc
Non, mais
c'est.
c'est ça, il ne faut pas du tout faire que ça. Après, il y a maintenant des marques, des petites marques qui essayent de faire du monoproduit. Enfin bon, de toute façon, il n'y a rien de mieux que de faire goûter en faisant les purées soi-même si on peut. Après, tous les parents ne peuvent pas faire tous les repas eux-mêmes. Donc, c'est vraiment en fonction de ce que chacun peut faire pour son enfant.
Oui, bien sûr. Et puis, comme vous le disiez, c'est aussi important de leur proposer quand même, de toute façon, une fois de temps en temps, même un petit peu de petit potou préparé, quoi. Donc, pour vous faciliter la vie, j'ai fait quelques recherches et je mettrai dans la description de cet épisode des liens vers des petits pots qui ne contiennent qu'un seul ingrédient. Et quelles sont, par exemple, les choses qu'on pourrait apprendre et qu'en général, on ne sait pas en allant sur votre formation, par exemple, pour nous donner un petit peu envie d'aller creuser là-dedans.
Bah, très bonne question. Saviez-vous qu'il ne faut pas donner du miel à un enfant de moins de 12 mois? Que l'abeille transporte des bactéries à l'origine de la maladie du botulisme, qui est dangereuse pour un nourrisson dont le système immunitaire n'est pas en mesure de combattre ces bactéries? Ou alors, saviez-vous qu'il est important de donner du lait infantile jusqu'aux 3 ans de l'enfant, parce qu'il est enrichi en fer et que ce serait presque impossible de combler ses besoins en fer avec des épinards, de la viande ou autre chose dans l'alimentation? Et pour donner peut-être un autre exemple, savez-vous qu'il est important de rajouter de la matière grasse, par exemple du beurre ou de l'huile végétale, dès les premières purées pour le développement du cerveau? Eh bien, je pense que la majorité des jeunes parents ne savent pas toutes ces informations.
Tout à fait, oui. Ben moi, j'avoue que j'ai été faire un tour sur vos formations avant, donc j'avais effectivement vu tout ça. Et puis, je trouve l'approche très intéressante aussi, notamment de dire que nourrir son enfant, c'est pas uniquement le goût, c'est aussi la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Ça, c'est aussi une approche, malheureusement, dont on parle pas assez et que je trouve super intéressante aussi.
C'est vrai qu'il y a un vrai éveil des sens. Hein. On peut apprendre énormément autour de l'alimentation. Enfin voilà, et c'est éveiller tous les sens. Et c'est ça, c'est effectivement des bonnes pratiques ou des idées de jeux, d'activités à faire autour du repas, au moment du repas ou avant ou après, mais autour de l'alimentation pour là encore, éduquer au goût, faire que voilà, il y a toute une notion de plaisir qui se développe autour de l'alimentation et pas juste de besoins nutritionnels.
Ouais, justement, par rapport à ça, au niveau des comportements, de ce qu'on fait, des erreurs qu'on peut faire quand on donne à manger à son enfant, qu'est-ce qu'on fait le plus souvent, par exemple, s'il veut pas manger son assiette,
Alors, bon, ça, c'est une super question et j'espère que vous avez appris ou vu des trucs qui vous ont intéressé dans la formation. Vous pourriez peut-être nous en partager, mais je pense qu'il y a énormément de choses. C'est ça qui est vraiment, c'est là où le sujet de l'alimentation est vraiment très, très riche, hein, parce que, il y a énormément de comportements qu'on fait par habitude, par éducation, par manque de temps ou quoi que ce soit, qui ne sont pas. Qui sont pas les plus adaptés ou qui pour voilà développer le goût de l'enfant ou voilà le faire prendre ces fameuses bonnes habitudes alimentaires dès le plus jeune âge. Ben, par exemple forcer un enfant à finir son assiette, enfin un tout petit hein, je parle hein, c'est différent quand ils sont plus grands. Au début l'enfant a une très forte capacité d'autorégulation. Bien plus que l'adulte et donc il sait quand il n'a plus faim et ça varie donc il n'y a pas besoin de le forcer à finir il va s'il mange un peu moins que les quantités qui sont voilà il faut pas être regarder au pied de la lettre les quantités mais voilà s'il mange moins à un repas il mangera peut-être plus à suivant et il sait ça sert à rien de créer cette vraiment ce stress autour de l'obligation de finir une assiette. Un autre exemple pourrait être l'idée de montrer qu'on n'aime pas un aliment. Par exemple, donner des épinards à un enfant, aussi petit soit-il, en disant miam, 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 des épinards, mais en se bouchant le nez de dégoût, ça donne pas du tout envie à l'enfant. Il comprend lui-même, il intériorise le fait, le bébé, que ça va être mauvais. Et pourquoi est-ce que lui. Donc ça lui donne déjà un mauvais goût de l'aliment, si on veut, ou une mauvaise impression. Et enfin, je dirais un dernier comportement qui est vraiment ne pas sous-estimer, c'est la persévérance. Hein. C'est-à-dire que parfois, on peut ne pas persévérer pour plein de différentes raisons. Mais par exemple, on sait aujourd'hui qu'il faut parfois présenter jusqu'à 10 fois un même aliment à un enfant pour qu'il le goûte. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il refuse 3 fois des brocolis qu'il n'aime pas ça. Ça peut être frustrant parce qu'on a préparé les brocolis et il n'a pas touché son assiette Voilà, faudra se faire pour les grands des pâtes au brocoli ou je ne sais pas. Mais il faut continuer à lui en proposer de temps en temps. Et je vous dis jusqu'à potentiellement 10, je crois pas, ça peut être 12 fois, pour vraiment savoir s'il n'aime pas. Ça peut être juste comme ça. Et ça, c'est quelque chose, parce que c'est assez frustrant quand on a préparé, en plus c'est très désagréable, on l'a préparé avec amour, on sort, on a ouvert on a tout préparé dans son assiette et il n'en veut pas, mais il faut continuer à persévérer. Ou le fait que, voilà, il va peut-être, notamment à partir de 18 mois, être davantage attiré par les pâtes, les pommes de terre, tout ce qui est assez dense et peut-être avec des goûts moins prononcés. C'est cette fameuse période où il refuse beaucoup d'aliments, mais il faut continuer à lui présenter régulièrement des légumes, même s'il les mange moins, à lui montrer parce que c'est cette exposition répétée avec une diversité des légumes qui fera que quand cette période où il est moins attiré par ces aliments, il aura envie d'en reprendre plus tard.
C'est la version à la nouveauté qui arrive à 18 mois,
Aux
c'est
alentours
ça?
de 18 mois. 18
Et...
mois, 2 ans, ça dépend des enfants, et qui peut, qui va souvent jusqu'à 4 ans, mais qui peut aller jusqu'à 7 ans chez certains enfants. Enfin, mais vraiment, les habitudes qu'on aura fait prendre et la manière dont on aura géré l'alimentation du tout petit, donc avant 18 mois, aura un impact sur une néophobie alimentaire, donc cette fameuse période du refus de la nouveauté et du refus des aliments de manière générale, à part les pâtes, le pain, les pommes de terre, etc. Vraiment, on peut faciliter cette période en fonction de. Voilà, ça participe à faciliter cette période. Et en tout cas, à ce que post cette période, qui est quand même quelque chose qui arrive à 75% des enfants, ils reprennent le goût des légumes, des fruits, etc.
Donc pour éviter au maximum ça, l'idée c'est de proposer le plus de variétés possible avant 18 mois du coup à l'enfant.
Exactement.
Et je voulais revenir aussi sur ce que vous disiez au départ là, par rapport au comportement, cette capacité que l'enfant a d'autorégulation, parce que c'est vrai que c'est pas du tout connu en général. Donc ça, l'enfant l'a naturellement et finalement malheureusement il va la perdre autour de 1-2 ans, c'est ça, parce que... Ben parce que justement, on va lui proposer un petit bout de pain, un petit truc toujours à manger, et du coup, ben, il va plus être à l'écoute de ses sensations corporelles. C'est ça?
Oui, c'est ça. Il y a une voilà cette capacité qui part un peu, mais c'est plus on l'écoute dès le début, plus il aura tendance à continuer à avoir cette capacité, mais de manière générale, de toute façon, ça s'amoindrit après.
Ok. Et du coup, sur ce que vous disiez juste avant aussi, oui, c'est vrai que on a toujours tendance en tant que parent à vouloir se forcer pour faire le mieux pour son enfant. Mais donc, no notamment par exemple, lui donner des épinards en lui faisant croire qu'on aime ça. Oui, de façon générale, que ce soit se forcer pour lui donner à manger ou se forcer pour faire quelque chose qu'on n'aime pas avec lui, ben en général, voilà, c'est pas du tout. Recommander.
Ouais, dans ce cas-là, le mieux, c'est si le papa aime ça, c'est le papa qui le donne.
Voilà, c'est sûr, c'est plus simple comme ça. Et ce que j'apprécie aussi dans vos formations, c'est que vous dites toujours, effectivement, c'est important aussi de le souligner, c'est que bon, il y a les repères, il y a les âges qui sont quand même assez précis, mais bon, voilà, c'est adapté en fonction de chaque enfant et de chaque moment même, de chaque jour, puisque. Voilà, un enfant peut des fois manger beaucoup et puis le lendemain, bah, peut-être qu'il a un peu moins faim ou voilà, en termes de quantité, c'est important aussi de s'adapter. Voilà, c'est important de ne pas prendre tout ce qui est écrit vraiment au pied de la lettre et de pouvoir avoir un peu de flexibilité par rapport à
Ouais.
ça aussi.
Chacun son rythme. Ce qui est important, c'est de suivre la courbe de croissance. Et puis, bien sûr, avec son pédiatre ou son généraliste qui suit l'enfant, pour voir si voilà, il a son bon développement. Ça donne des repères, mais effectivement, il faut chaque enfant a son propre rythme. Ça va dans l'alimentation, mais dans tout, hein, dans toutes les autres catégories de développement. Mais c'est vrai que c'est important à souligner, vous avez raison.
Ok, ben super. Du coup, ben, je pense qu'on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que peut-être il y a une question que j'ai pas posée, que vous auriez, à laquelle vous auriez voulu répondre?
Non, Non, je crois pas. J'ai trouvé cette interview très complète. Merci beaucoup. Et bravo à ce que vous faites.
Bah, merci à vous.
Pas de rien, non, mais c'est super. Je pense qu'on est aligné sur l'importance d'accompagner un maximum de parents. Donc, c'est super, c'est différents moyens de le faire.
Écoute les conseils de tous et prends celui qui te convient.
Si vous avez apprécié cet épisode, un like ou un commentaire seront très appréciés. Et parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, je vous invite sur le site donnezluidesailes.fr pour écouter les autres épisodes audio, pour découvrir mes accompagnements en